Marie, eh bien, nous allons être aujourd'hui un petit peu moins dans les hautes sphères théologiques, exégétiques. Nous allons revenir à du concret, et notamment le concret va se caractériser par le développement de notre personnalité, de notre vie personnelle, de tous les jours, de manière quotidienne, dans l'expérience de la liberté. Pourquoi je parle de la liberté aujourd'hui ? Parce que tout simplement, nous sommes dans deux contextes. Le premier, toujours dans le temps pascal, cette liberté a été cher payée par Dieu lui-même. Et puis, dans le contexte aussi des élections. 3, même 4 positions sont possibles par rapport aux élections. On en parle déjà depuis 2 jours. La première, c'est donc bien sûr de choisir un des 2 candidats avec un discernement qui se rapproche, se rapporte sur notre réflexion éthique. Et qui va s'inspirer de ce que peut enseigner l'Église, notamment. Deuxième position, c'est tout simplement aller voter blanc, c'est-à-dire s'abstenir, mais aller voter, donc honorer la démocratie cependant. Et puis troisième position, c'est pas du tout aller voter, c'est-à-dire ne pas même marquer notre geste d'honorer la démocratie qui nous est donnée dans notre pays. La liberté est une responsabilité et un engagement. Cette liberté va exister, va demeurer dans notre vie si nous sommes, précisément engagés et responsables. Si dans notre volonté de vivre notre liberté, nous n'avons pas ce souci de nous engager et de nous responsabiliser, eh bien, c'est-à-dire d'assumer ce que nous décidons au cœur de nos choix qui font partie du décor de notre liberté, à ce moment-là, eh bien, quelque part, nous pouvons la perdre, cette liberté. Nous allons la perdre parce que nous allons tomber dépendants de notre négligence, de notre manque de courage ou tout simplement de notre perte du sens de ce qu'est la liberté en tant que telle. Nous allons essayer de trouver notre sécurité dans une dépendance assurée. Alors, on va prendre quelques petits exemples concrets pour bien piger ce que je veux dire. Par exemple, un enfant et des parents. Un enfant commence, vous savez, il est tout mignon, il naît, il est tout bébé, il est mignon, le petit garçon ou la petite fille, bon. Et les parents sont complètement gaga. Ouh, il fait ses premiers mots, le papa, la maman, il dit merci, etc. Après, il fait ses bisous, après, il fait ses premiers pas, alors ils sont là, ah, il fait ses premiers pas, etc. Enfin, ne nous excitons pas, mais enfin, c'est à peu près ça qui se passe dans une famille quand un enfant commence à faire ses premiers pas. Et puis, bon, les années passent, se succèdent, et puis tout d'un coup, notre petit garçon, notre petite fille, à l'âge de raison, puis la maturité de l'enfance, puis après, ça devient une grande gigue, vous savez, genre grosse tête ressemblant à une pizza, et puis avec, sur un long fil de fer, c'est un peu grand, ça pousse dans tous les sens. Et du coup, les positions de l'enfant qui était drôle sur le sofa deviennent affligeantes de la part d'un jeune de 14 ans, de 15 ans. On dit, mais qu'est-ce que tu as de vautré comme ça ? On oublie très vite en tant que parent qu'on a été nous aussi ados, que nous aussi, pendant le temps de l'adolescence, on ne savait pas trop comment se situer, si on était un enfant ou un futur adulte. Nous aussi, on avait de grandes responsabilités qui étaient tout le temps mises devant notre nez. Et puis, finalement, il y avait un mal-être. Bon. Et puis, l'adolescent, tout doucement, grandit. Lui, de son côté, il est en train de remarquer quelque chose de très, très étonnant. Les parents ont des défauts. Et oui, ça existe. Et plus ça va, d'ailleurs, plus ils sont tout à fait d'accord entre copains et copines pour dire que, finalement, malheureusement, leurs parents, de manière exceptionnelle et unique, ont que des défauts et par rapport aux autres parents. Et puis, du côté des parents, c'est plus sournois, il y a quelque part la panique de perdre notre petit cher bébé qui a grandi. Et puis on ne le considère pas encore assez prêt pour prendre son envol, pourtant les ailes sont en train de pousser. On a très très peur de toutes les expériences qu'il peut faire, on veut l'abriter de toute blessure ou maux qui pourraient être à éviter. Enfin, c'est la véritable panique chez les parents, surtout lorsqu'ils commencent à se rendre compte en regardant leur grand fil de fer avec la tête ronde comme une pizza. Ils se disent, bon sang, mais il est grand et on n'a rien appris, rien inculqué. C'est à ce moment-là qu'il y a une déferlante de reproches. Il faut que tu saches dire bonjour, il faut que tu saches dire au revoir, il faut que tu saches bien tenir, il faut que tu sois responsable. Et en même temps, on lui dit, bon, écoute, t'es encore un enfant, hein, mais on lui demande d'être un adulte. Alors, donc, tous ces paradoxes qui sont, vous savez, très classiques dans toutes les familles, sont en plus beaucoup plus douloureux si la famille est disloquée, c'est-à-dire si elle est reconstituée. Parce qu'à ce moment-là, qui a autorité paternelle? Qui a autorité maternelle sur un beau-fils ou une belle-fille? Enfin, voyez, vous voyez un petit peu le décor.